Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence et merci d'être toujours fidèle à Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Les jours qui viennent vont ressembler à une sorte de bousculade, pour ne pas dire un véritable embouteillage d'événements musicaux en tout genre. Ce sont les hasards du calendrier. Fort heureusement, nous vous en avons déjà annoncé et présenté certains lors de nos précédents numéros. Il nous reste à vous annoncer et vous présenter les autres. Pour cela, j'ai réuni aujourd'hui autour de moi mes chers camarades Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, et Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Avec eux, je suis heureux d'accueillir l'invité d'honneur de ce numéro, Michel Brun, fondateur et directeur artistique de l'ensemble baroque de Toulouse, qui va donner les 30 novembre et 1er décembre ses concerts de Noël à Toulouse et à Portet-sur-Garonne. C'est bien sûr pour en parler avec lui que nous recevons Michel Brun dans cette émission. Il va falloir attendre la seconde partie pour ça, puisque comme il est de coutume, nous allons d'abord revenir dans un premier temps sur l'actualité musicale de la semaine passée.
Mélomanie. Retour arrière.
Et nous commençons ce retour arrière avec l'Orchestre National du Capitole. Il donnait samedi un concert du cycle Happy Hour. À sa tête, un jeune chef qu'on commence à bien connaître à Toulouse, le russe Maxime Emelianichev. Il y avait deux œuvres au programme, la symphonie numéro 83 de Joseph Haydn, celle qu'on appelle aussi la poule, et puis la troisième symphonie de Beethoven, dite l'héroïque. Je n'ai pas pu assister à ce concert, mais Anne-Marie et Serge Chauzy y étaient. Qu'est-ce que le facétieux, le fantasque Maxime Emelianichev a sorti de son chapeau cette fois-ci?
Il a sorti ce qu'il sait faire, puisqu'il est aussi passionné par la musique sur instruments anciens que la musique romantique. Et là, il dirigeait deux symphonies, dont une classique, celle de La Poule de Joseph Haydn, la numéro 83, et puis la fameuse symphonie héroïque de Ludwig van Beethoven. Et dans le cadre d'un concert Happy Hour de l'Orchestre du Capitole, à 18h, cette série qui d'ailleurs correspond vraiment à un besoin de beaucoup de gens, des familles comme des seniors, des gens qui le samedi à 18h sont ravis d'aller écouter de la musique classique à la Halle aux Grains. Et à chaque fois, quel que soit le programme, les gens aiment, même si c'est plus audacieux, même si c'est plus classique, ils adorent écouter de la musique à ce moment-là, peut-être parce qu'ils sont réceptifs. Et donc, Emelianichev a donc dirigé La Poule avec ce qu'il sait faire, c'est-à-dire éclaircir vraiment le discours musical, s'attacher à la clarté des plans sonores, puis en même temps toujours avec une dynamique, quelque chose qui vraiment donne à ses œuvres une vie permanente et une dynamique qui, en général, ne faiblit pas. Si dans la symphonie héroïque, il a terminé par un mouvement final qui était vertigineux, d'une rapidité incroyable, obligeant l'orchestre à vraiment donner le maximum en virtuosité et en maîtrise technique, ce qu'ils ont fait. À chaque fois, ce garçon qui n'a que 30 ans montre qu'il peut aborder tous les répertoires et qu'il a déjà une idée des œuvres qui est vraiment très marquée. Il applique, c'est ce qu'il me disait, en fait, pour lui diriger à la fois le baroque et la musique symphonique, c'est un va-et-vient entre les deux répertoires qui s'enrichissent mutuellement. Le travail qu'il fait sur le baroque enrichit à ses yeux aussi le répertoire sur la musique romantique. Donc c'est une façon de diriger qui en même temps a l'air de convenir au public et que l'héroïque de Beethoven allègrement supporté, même si on est tellement habitué à écouter cette œuvre dans des interprétations qui sont beaucoup plus expressives, profondes, avec une certaine solennité parfois. Finalement, ce traitement aussi convient assez bien à cette œuvre. Et je crois que le public en a témoigné en applaudissant, en rappelant, et que donc Emelianichev, on devrait le revoir à Toulouse, je pense. Il a commencé une belle carrière. Il se considère d'ailleurs pas comme quelqu'un de jeune, dit-il, parce qu'il a commencé très tôt. Que pour lui, c'est déjà un début de maturité.
Serge Chauzy.
Oui, effectivement. Je crois qu'il faudrait rappeler aussi que Maxime Emelianichev n'est pas que chef d'orchestre, il est pianiste, claveciniste, et il joue du cornet à bouquin, ce qui n'est quand même pas très courant chez les chefs d'orchestre aujourd'hui. Donc, c'est un surdoué, c'est évident. Hein. C'est quelqu'un qui a une idée précise de ce qu'il veut obtenir de l'orchestre. Il l'obtient. La première des choses, il redistribue la place des différents pupitres de l'orchestre, avec, par exemple, les contrebasses au centre et au fond. Bon, il redistribue vraiment l'ensemble des musiciens, ce que les musiciens font avec très bonne volonté. Et puis, effectivement, comme disait Anne-Marie, elle a tout à fait raison. Le fait qu'il jongle avec les répertoires, il dirige aussi du Sibelius, j'ai appris. Bon, Sibelius, c'est quand même très loin de Vivaldi et de Bach.
C'est moins qu'on puisse dire, oui.
Et il fait ça avec beaucoup de talent, en particulier dans le concert qu'il a donné. Alors, je voudrais préciser que moi, je n'ai pas assisté au concert Happy Hour. J'ai assisté au concert la veille, qui était un concert offert aux étudiants de Toulouse, qui ont été enchantés d'ailleurs, eux aussi. Même public jeune, qui a été enthousiaste à la fin du concert.
Ouais, puis il doit se retrouver un peu dans la personnalité, je pense. Et même le look un peu de
Exactement. Maxime
Emelianichtchev, qui détonne un peu dans le monde de la musique classique.
Ah, complètement. Hein. Mais écoutez, déjà, il a 30 ans, mais il en paraît 18. Hein.
Oui, il fait très juvénile.
Il a une allure d'adolescent. Oui,
je lui trouve une allure de Beatles des premiers temps, vous savez, du début des années 60.
Et puis n'oublions pas qu'il était à Toulouse il n'y a pas très longtemps.
Oui, avec Edmond Mandor.
Avec le concert d'ouverture des grands interprètes, et il dirigeait l'opéra complet Circé de Handel, avec son ensemble Il Pomodoro. Lui étant au clavecin en même temps. Donc, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable.
Non, c'est une personnalité à part.
Hein. Ah oui, une personnalité très attachante. En plus, c'est quelqu'un de très sympathique, très dynamique, évidemment.
Il fait énormément de choses.
C'est incroyable. Et donc, ce concert, alors la symphonie La Poule, évidemment, là, il est dans son élément absolu. Hein. Il met tout l'humour qu'il faut, la légèreté. Là. Et puis, pour la symphonie héroïque, il obtient des cordes, un vibrato minimum, évidemment, et donc il utilise le vibrato un peu comme on le faisait à cette époque d'ailleurs, comme un ornement, une ornementation, hein, pas simplement un vibrato continu comme ça s'est pratiqué après. Hein,
et il a une vision originale des œuvres à chaque fois.
Très original.
Il met sa patte sur les orchestres, on l'a vu, en touchant la configuration pour voir ce que lui il veut, et puis même sur les œuvres en elles-mêmes.
Il donne une vision personnelle de toutes les œuvres, et avec beaucoup de dynamisme et une vitalité. De tous les instants, quoi. Donc on ne s'ennuie pas une seconde.
Et il vit toujours à Moscou.
Oui, il vit toujours en Russie,
Il est natif, en fait, du district de Nijni Novgorod.
Oui, c'est là qu'il a fait, d'ailleurs, toute sa formation musicale. Alors, en tout cas, on est toujours très heureux de le voir à Toulouse, où on le voit plusieurs fois par an depuis 2 ou 3 ans, et je pense que c'est pas fini.
Ah ben oui, je suppose. Lui est ravi de venir à Toulouse, hein.
Et puis, il sera bientôt, je ne sais plus, c'est dans la saison, je crois, de l'Orchestre du Capitole, où il sera au piano. Il va revenir. Il me semble bien, où il sera au piano, je ne sais plus quand.
C'est un excellent pianiste. Ouais, hein. Ouais. À la dernière répétition à laquelle j'ai assisté de ce même concert, quand je suis arrivé, j'entends jouer le 3e concerto de Beethoven, seul, et c'était lui qui s'est versé au piano, et il jouait la cadence du premier mouvement du 3e concerto de Beethoven.
Eh bien, voilà. Beethoven est très à l'honneur dans cette première partie d'émission, ce dont personne ne va se plaindre, je pense. Nous allons maintenant écouter un extrait de sa 3e symphonie, le 2e mouvement Adagio Assai et sa célèbre marche funèbre.
Thank you.
La marche funèbre de la symphonie numéro 3 de Beethoven, qu'on put entendre samedi dernier, les spectateurs présents au concert Happy Hour de l'Orchestre National du Capitole à la Lograin, et de Beethoven, il va encore être question maintenant, puisque la semaine dernière a également eu lieu le coup d'envoi de la Saison Bleue, dont Alain Lacroix, son fondateur et directeur artistique, était venu nous parler il y a quelques semaines dans cette émission. Vendredi à Saint-Pierre-des-Cuisines, c'est le trio Gastinel-Cassard-Grimal qui ouvrait la partie classique de la saison. Philippe Cassard, l'habitué et le fidèle des programmations d'Alain Lacroix, lui et ses deux excellents et prestigieux complices ont interprété deux des sept trios avec piano de Beethoven. Il y avait le troisième et le septième. Concernant le troisième, que le compositeur lui-même considérait comme un des plus aboutis, il y a une anecdote amusante qui va nous ramener à Haydn, dont nous venons de parler il y a quelques instants. Figurez-vous qu'il avait déconseillé à Beethoven de le publier. Alors, je ne sais pas si Serge Chauzet était au courant de cette anecdote. Ah, je vous aurais appris quelque chose. Oui, oui, je ne sais pas pourquoi. Haydn lui avait dit non, ça, vous ne devriez pas le publier, mon cher Ludwig.
C'était peut-être trop en avance sur la musique de son temps.
C'est bien possible. En tout cas, heureusement pour nous, Beethoven ne l'a pas écouté. Et ça nous permet évidemment d'en profiter aujourd'hui. Alors, il y a eu ensuite le septième trio. Je crois que c'est le plus célèbre, le plus joué, a priori. Celui qu'on appelle l'archiduc. Alors, pourquoi l'archiduc?
Parce qu'il était dédié à l'archiduc Rodolphe. Donc, oui, exactement.
Bon, ça, vous le saviez. Rodolphe d'Autriche, vous saviez qu'ils étaient très liés avec Beethoven. Vous savez pourquoi?
Absolument. Ah non,
Simplement, Rodolphe d'Autriche avait été l'élève.
Ah voilà, oui, oui.
Il avait été l'élève de Beethoven, et bon, ils sont restés amis jusqu'à la fin du compositeur.
Non, mais Beethoven avait beaucoup de nobles parmi ses amis, oui. mais il ne respectait absolument pas la hiérarchie. Hein. Faut pas oublier que Beethoven était une sorte de révolutionnaire. Hein, donc, il avait des amis, mais il les considérait comme des égaux. Et même quelquefois, il disait, des nobles, il y en aura beaucoup. Des Beethoven, il n'y en a qu'un, c'est moi.
Oui, il était assez conscient de son génie. Je pense, toujours est-il que Rodolphe d'Autriche, l'archiduc, est resté son ami et son protecteur jusqu'à la fin de la vie du compositeur. Cela étant dit, j'en viens maintenant au concert de vendredi dernier à Saint-Pierre-des-Cuisines. Alors pour moi, il y a une première surprise qui n'a rien à voir avec le programme, c'est que la salle était à peine à moitié remplie. Ce qui est quand même étonnant compte tenu d'une part de la célébrité de la qualité des musiciens présents et puis aussi du programme.
Du programme, oui.
Bon,
oui.
Étonnant.
Très étonnant, oui.
Ouais, vraiment étonnant. Anne Gastinel, Philippe Cassard, David Grimal ont joué bien sûr et plutôt bien. Serge, je ne sais pas si vous vous en souvenez, l'an dernier, on était aussi à un concert de la Saison Bleue où il y avait ce même trio, Gastinel, Grimal, Cassard, mais c'était pour les trios de Schubert.
Dans les deux, oui, absolument. Oui,
trio
oui.
De Schubert.
Une très belle soirée.
Et je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'avait dit d'ailleurs, je crois, dans cette émission, on avait trouvé qu'au début, en tout cas, le piano de Philippe Cassard était un peu fort, qui couvrait ses deux camarades.
Oui, c'est vrai. Mais ça s'était amélioré au cours du concert. Hein. Je crois qu'ils avaient récupéré une bonne balance. Mais c'était bien. Moi, j'ai un bon souvenir de ce concert.
Oui, et puis bon, il y a aussi un très très joli programme, évidemment, les deux trios avec piano de Schubert, qui n'aimerait pas. Alors là, il n'y a pas eu le problème du piano qui était trop fort et qui couvrait Anne Gastinel et David Grimal, pas du tout. Bon, Grimal, toujours formidable. Enfin, je trouve qu'il a un jeu d'une pureté, un son, d'une délicatesse. Enfin, c'est toujours magnifique. Anne Gastinel, on la connaît. Elle a très très bien tenu sa partie de violoncelle. En revanche, moi je dois dire que j'ai un peu de mal, en tout cas là, j'ai eu un peu de mal avec Philippe Cassard, dont je trouve personnellement que le jeu est un peu, comment dire, un peu raide. Parce que parfois, ça manque de musicalité. Alors vous, l'an dernier, vous n'aviez pas trouvé...
Je n'ai pas eu cette impression.
Vous n'aviez pas eu cette impression. Bon, voilà, je suis toujours un peu gêné de dire ça, d'autant plus que j'aime beaucoup ce que fait Cassard, moi, à la radio. Hein.
Ah, oui.
Je trouve toujours que c'est passionnant. Et d'ailleurs, pour le concert de vendredi dernier, toutes ces interventions, ces présentations des œuvres, c'était aussi passionnant que d'habitude, avec des anecdotes, avec de l'humour. Avec David Grimal, ils s'entendent très bien lorsqu'il s'agit de plaisanter ensemble. Il n'empêche qu'après, le concert a été, dans l'ensemble, très très agréable, malgré cette salle qui était peu remplie. Dommage. Je vais vous faire écouter, non pas un extrait du programme de l'autre jour, parce que je n'ai pas d'extrait où on entend Gastinel, Philippe Cassard et David Grimal jouer le trio numéro 3 ou le numéro 7 de Beethoven. Là, on va écouter un petit extrait du trio numéro 1, opus 1. Thank you. Anne Gastinel, Philippe Cassard et David Grimal dans ce petit extrait du trio numéro 1 opus 1 de Beethoven. Les concerts classiques de la saison bleue vont maintenant se poursuivre en 2019. Le prochain ayant lieu le mardi 8 janvier. Vous pouvez déjà le noter. Nous refermons cette première partie d'émission. On se retrouve dans une minute en compagnie de Michel Brun pour évoquer les concerts de Noël de l'ensemble baroque de Toulouse. Restez bien à notre écoute. À tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique ? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
La seconde partie de Mélomanie avec les invités de ce numéro, Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et donc avec Michel Brun, notre invité d'honneur, fondateur et directeur artistique de l'ensemble baroque de Toulouse.
Mélomanie, l'agenda.
Pour l'instant, Michel Brun va devoir encore ronger son frein quelques minutes parce que nous allons d'abord nous pencher sur le programme et les musiciens du deuxième concert de la saison des grands interprètes. Il a lieu ce samedi 24 novembre à 20h à la Halle aux Grains et il réunit un plateau de choix, rien moins que l'orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Mikko Franck et les sœurs Katia et Gvansa Bouniatichvili. Ils vont interpréter ensemble ou séparément un programme typiquement et uniquement français composé d'œuvres de Ravel, Poulenc et Debussy. Nous allons nous y intéresser dans quelques instants, après que nous aurons présenté tout de même les forces en présence. J'ai dit que nous allions nous pencher sur les musiciens. Je vais donc donner l'occasion à Serge, le Vénard, de se pencher sur les sœurs Bouniatichvili.
Blague à part. Me pencher, c'est un bien grand mot.
Oui. Alors bon, blague à part. On sait que Katia Bouniatichvili est à la fois très médiatisée, très controversée, pas toujours pour de bonnes raisons.
Oui,
on va oublier un moment ces décolletés vertigineux sur lesquels voilà. Nous n'allons pas nous pencher. Nous allons nous pencher sur la musicienne. Qu'est-ce que vous pensez de la pianiste qu'elle est avec tout ce qu'on entend sur elle? Il y a des gens qui sont dérangés par tout un tas de choses. Oui. Parlons de la musicienne.
Mais je crois qu'ils sont plus dérangés par son attitude ou disons sa manière de s'habiller pour être un peu clair.
Que j'ai évoqué un peu plus précisément.
Voilà, oui. Mais bon, c'est une grande musicienne qui a fait des choses. Je me souviens, elle a enregistré un concerto de Rachmaninov il n'y a pas très longtemps qui est très très beau. Elle est venue assez souvent à Toulouse d'ailleurs.
Oui.
Et vraiment, non, moi je trouve que c'est une grande artiste, une grande musicienne qui a beaucoup de talent, beaucoup d'originalité, de personnalité, parce qu'elle impose chaque fois une vision des œuvres qu'elle interprète. Et ma foi, moi je trouve ça très bien.
Oui, notamment, elle a des tempi parfois qui sont bien propres à elle,
qui peuvent
être infernaux.
Dynamiques.
Oui. Parfois, ça veut dire que ça se casse la gueule, pour le dire vulgairement, en cours d'interprétation. C'est un peu là, moi, je ferai des réserves sur ce qu'elle peut faire. En revanche, ce qui me paraît évident, c'est que c'est une fantastique technicienne.
Ah ben oui.
Véritable virtuose.
Oui, absolument. Et ça sera très intéressant de voir, non pas la confrontation, mais l'association avec sa sœur, qui a juste un an de plus qu'elle, donc elles sont très proches.
Gvansa. Beaucoup plus discrète.
Oui, nettement plus discrète. Mais c'est une Gvansa, alors, elle a quand même une belle carrière. En particulier, elle a participé au projet de Martha Argerich de Lugano. Et donc, en général, Martha Argerich choisissait bien. Je dis choisissait puisqu'elle a arrêté ce projet, mais elle choisissait bien ses partenaires. Donc ça sera intéressant de voir les deux sœurs. Alors c'est amusant de constater que les duos de piano sont souvent des sœurs.
Oui,
elle est avec.
C'est vrai.
Oui, non, mais c'est intéressant. Et donc là, le programme m'apparaît vraiment très attirant, puisqu'il n'y a que de la musique française, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, bon, très bien. Et puis il est dirigé par Mikko Franck, qui est un très grand chef donc finlandais, qui a déjà une sacrée carrière derrière lui.
Il est formé par un très grand maître en matière de direction d'orchestre, Jorma Panula.
Ah, le fameux, oui, qui a vraiment
espèce de sorcier de la baguette.
Qui a formé les plus grands.
Et je crois Klaus Mäkelä aussi. Klaus Mäkelä.
Oui, qui va venir bientôt.
Qui va bientôt diriger l'Orchestre national du Capitole.
Jeune et talentueux, très talentueux chef, que l'on accueillera très bientôt à Lohengrin. Et donc, le programme est vraiment très attirant, puisqu'il débute d'ailleurs sans orchestre, avec la version pour deux pianos de La Valse, de Maurice Ravel. Une version magnifique, écrite par Ravel lui-même. Donc,
dont on connaît beaucoup plus la version orchestrale.
Bien entendu.
La version pour un seul piano.
Un seul piano, oui, également.
Pour deux pianos, c'est rare qu'on entende.
Oui, on l'a déjà entendu ici à Toulouse. Alors, j'avoue avoir oublié les interprètes, mais c'est vraiment une très belle version pianistique de cette fameuse valse. Et puis, le concerto pour deux pianos orchestre de Francis Poulenc, ça c'est une œuvre souriante, que l'on aime bien entendre, parce qu'elle a cette espèce de fantaisie, de gouaille.
Et pour deux pianos aussi.
De Francis Poulenc. Là aussi pour deux pianos, il ne s'agit pas de piano à quatre mains, deux pianos. Et puis la deuxième partie du concert réunira deux œuvres symphoniques tout à fait emblématiques du début du XXe siècle, la suite Printemps de Debussy, qui date de 1908, et puis la deuxième suite, la plus fameuse, du ballet Daphnis et Chloé, de Maurice Ravel. Alors, on entendra l'intégrale du ballet en cours de saison,
oui,
avec le chœur. Alors ça, c'est ce dont je me réjouis. Mais la deuxième suite est une merveille, qui s'ouvre sur le lever du jour, le chant des oiseaux. Ça, c'est une partition rutilante.
Non, je crois qu'il n'y a pas une année à Toulouse où on n'entend pas.
C'est vrai.
Ou aux grands interprètes, ou l'Orchestre national du Capitole. Il faut dire aussi que le public adore entendre Daphnis et Chloé. Ça touche toutes les générations.
Absolument.
C'est tellement féerique.
Oui. De l'entendre diriger par Mikko Franck, qui n'a jamais dirigé à Toulouse, son orchestre maintenant, puisqu'il en est le directeur musical.
Oui, depuis 2015.
Je pense que ça sera très intéressant de l'entendre dans ce répertoire, qui est plutôt joué par l'Orchestre du Capitole. C'était à l'époque de Plasson et même maintenant. Mais je crois que là, on va voir aussi que Mikko Franck peut s'immerger dans ce répertoire qui, semble-t-il, lui convient tout à fait. Donc, c'est un concert très attendu aussi dans cette semaine, malheureusement trop riche.
Ah oui,
malheureusement,
on ne va pas s'en plaindre non plus.
Je dis malheureusement pour les musiciens eux-mêmes, parce que peut-être aussi...
Le public ne peut pas non plus se démultiplier.
Le public, je veux dire, pour le public, en fait, qui ne peut pas aller partout, qui ne peut pas sortir tous les soirs, pour des raisons de disponibilité, mais aussi financières, on ne peut pas être tous les soirs au concert et apprécier des concerts de ce style très différent, comme ça, la même semaine. Donc, il y aura des choix. Et je crois que ce concert n'est pas tout à fait plein, même si les grands interprètes ont un public fidèle et des abonnés. Mais chaque soir, il y a le Théâtre du Capitole aussi qui poursuit la série de représentations de la ville morte de Korngold, qui a lieu tous les deux jours. C'est vrai que ça fait une actualité très riche.
Je voulais revenir à Mikko Franck, parce que je crois que vous avez eu l'occasion d'échanger avec lui, et il vous a dit que lui, il allait vraiment défendre la musique française avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France.
Oui, tout à fait, parce qu'il souhaite que cette tradition qu'il considère faire partie de la tradition de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, pour lui, doit être vraiment maintenue et même accru, parce qu'il pense qu'il faut rendre justice à cette musique française quand on s'appelle Orchestre de Radio France également, même si cet orchestre a montré par le passé, il est souvent venu à Toulouse avec Myung Boon Chung, son précédent directeur, mais aussi la saison dernière, sans son directeur qui a eu un accident, il était dirigé par un chef que l'on connaît, qui est un chef allemand, qui est venu au Cap...
Henschen,
voilà. Henschen, donc c'est un orchestre qu'on a entendu plutôt dans des répertoires, le grand répertoire symphonique allemand, plus que dans la musique française, et je crois que Mikko Franck souhaite que la musique française soit vraiment défendu par cet orchestre.
De même, son cœur de répertoire.
Voilà. De même que l'opéra, puisque lui-même, Mikko Franck, est un chef d'orchestre qui adore le diriger de l'opéra et il souhaite en faire avec l'orchestre, aussi bien en version scénique que concertante.
De la musique française, de la belle musique française, et ça va nous permettre de revenir aux sœurs Bouniatichvili qui vont jouer lors de ce concert de ce samedi 24 novembre la valse de Ravel. Je disais tout à l'heure qu'on en connaît beaucoup plus la version orchestrale que celle pour piano et moins encore celle pour deux pianos. On va écouter maintenant les sœurs Bouniatichvili qui nous jouent la valse de Maurice Ravel, version pour deux pianos.
Thank you.
La valse de Maurice Ravel, la version pour deux pianos interprétée par Katia Gvansa Buniatichvili, c'est une des œuvres au programme du concert que les deux sœurs vont donner avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Mico Franck à la Halle au Grain ce samedi 24 novembre à 20h. Au programme de cette soirée des grands interprètes, il y a également le concerto pour deux pianos de Francis Poulenc, la suite Printemps de Claude Debussy et Daphnis et Chloé, la suite numéro 2 de Maurice Ravel. C'est à nous maintenant Michel Brun pour les deux concerts que vous apprêté à donner à Toulouse et à porter sur Garonne les 30 novembre et 1er décembre avec l'ensemble baroque de Toulouse, la formation que vous avez fondée et que vous dirigez depuis près de 20 ans. On en parlera parce qu'il y a un anniversaire évidemment qui se prépare à cette occasion. Deux concerts donc dits de Noël, ce qui nous indique déjà un peu l'esprit du programme que vous allez jouer. Alors, il ne s'agit pas d'une première. Vous avez déjà proposé un concert de Noël l'an passé dans les mêmes villes et ça avait si bien marché dans les deux cas qu'il n'y avait aucune raison de ne pas recommencer cette année.
Voilà, tout à fait. Vous avez résumé. Disons que c'est toujours un risque qu'on prend lorsque, comme cela, on organise des concerts que l'on autoproduit. C'est-à-dire, ben, évidemment, un orchestre, c'est un effectif déjà assez développé. D'autre part, évidemment, la présence de solistes pour les œuvres vocales. J'en parlerai peut-être dans un instant. Et puis, la présence du chœur baroque. Donc, ça fait beaucoup de monde. Mais alors, voilà, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, donc, c'était la première expérience que nous faisions à ce niveau-là. Et ça a été un tel succès auprès du public que c'était difficile d'éviter de recommencer, quoi, voilà.
Vous avez même refusé du monde, je crois.
On a refusé du monde aux deux concerts. Alors, si vous voulez, à Toulouse, bon, vous avez parlé tout à l'heure, et je crois que vous avez raison, de l'embouteillage. Nos concerts sont un peu à la sortie de l'embouteillage,
oui,
on va dire.
On est bien visé, si
mais,
je peux dire.
C'est involontaire, parce qu'effectivement, le problème de ces embouteillages, c'est qu'évidemment, ça n'est jamais anticipé.
Personne n'a envie qu'il y ait embouteillage.
Personne n'a envie,
concert,
c'est, voilà, c'est les hasards, disons, des calendriers, des libertés des salles, des libertés des artistes, etc., qui créent ça. Mais, si vous voulez, bon, il y a une vie musicale foisonnante à Toulouse, ça, tout le monde le sait, et donc, réussir à toucher un certain public à Toulouse n'est quand même pas très étonnant, à part s'il y a trop de choses le même jour exactement. Mais par contre, là où c'était un véritable pari, c'était à Portée-sur-Garonne. Parce qu'à Portée-sur-Garonne, alors, porter sur Garonne, tout le monde connaît, et j'ai envie de dire, quelque part, personne ne connaît. C'est-à-dire qu'on connaît tous, on va dire, l'aspect peut-être le moins décoratif, en tout cas.
Le moins esthétique.
Voilà,
oui.
Esthétique de porter sur Garonne, qui est cette immense zone commerciale. Mais porter sur Garonne est un magnifique petit village typiquement toulousain, qui, en son centre, comme ce type de village, regroupe une halle, une jolie petite place, et une magnifique église, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, et qui sonne, en plus,
parfaitement. Une très belle acoustique.
Qui est une acoustique vraiment splendide. Mais très peu de concerts, et en particulier de concerts classiques, à porter sur Garonne. Et donc, là, c'était un véritable pari. Et effectivement, l'an dernier, le public a répondu. Alors, voilà, il y a un vrai partenariat avec la ville, hein, qui a vraiment soutenu cette initiative. Mais je dois dire qu'on a été quand même surpris de cet engouement. Voilà.
Et pas de raison que cette année ce ne soit pas la même chose. Ce sera le samedi 1er décembre à 17h. L'an dernier c'était le dimanche, hein, que les gens ne se trompent pas. Cette année c'est le samedi 1er décembre à 17h. En revanche, à Toulouse, il y a du changement. L'an dernier, vous aviez joué à l'église Saint-Jérôme. Cette année, vous jouez à Saint-Exupère. Il y a une raison précise à ça? Ou c'est une question de disponibilité?
Alors non, il y a une raison précise qui est une raison pratique, hein, qui est que l'église Saint-Jérôme n'a pas de chauffage. Et que donc, l'année dernière, pour éviter au public, dans cette période estivale d'avoir... hivernale, pardon.
Juste
d'avoir trop froid.
Non estival.
Voilà, non estival. D'avoir trop froid. Nous avions dû recourir à des moyens un petit peu compliqués, c'est-à-dire louer des chauffages, mais est-ce que l'installation électrique... Et nous avions même offert au public un plaid par personne. Voilà, mais c'est une opération qu'on avait faite une fois, qu'on ne peut pas reproduire. Par contre, Saint-Exupère, que nous connaissons bien à l'ensemble baroque de Toulouse, puisque c'est là que nous faisons régulièrement les cantates de la série Cantates sans filet, les cantates de Bach, donc, à un chauffage. Et également, bien sûr, parce que c'est déterminant, hein, tout comme Saint-Jérôme, une excellente acoustique.
Et puis c'est un peu plus grand, je pense.
C'est un petit peu plus grand.
Accueillir
au niveau
un peu
de la
plus
jauge.
Alors,
comme il y avait eu aussi ce problème par rapport à la jauge l'an dernier, nous espérons qu'à Saint-Exupère, qui effectivement est un petit peu plus grande, nous n'aurons pas les mêmes difficultés que l'an dernier.
Oui, et puis dans le problème de Saint-Jérôme, c'est que s'il y a de la queue, on se retrouve dans la rue et on encombre la rue, alors qu'à Saint-Exupère, il y a une cour devant l'église. Voilà. C'est quand même un peu plus confortable à tous les niveaux. Alors, ce concept de concert de Noël, si j'ai bien compris, il devrait s'installer dans les années, puisqu'il y a de la demande. Parler de façon un peu commerciale. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à moyen terme, ça aussi, ça puisse déboucher, je crois que c'était un peu votre volonté, sur une véritable saison, que ce soit le point d'orgue d'une saison de concert de l'ensemble baroque de Toulouse? à Toulouse, mais aussi autour de Toulouse, peut-être plus encore autour de Toulouse d'ailleurs.
Voilà, tout à fait. Alors si vous voulez, oui, alors c'est toujours l'intention. Par contre, après, ben, il faut réussir à trouver les moyens de le mettre en œuvre, en particulier sur un plan financier. Hein. Comme je l'ai dit, donc, c'est beaucoup plus lourd, évidemment, de financer un concert avec un orchestre qu'un concert de musique de chambre, ne serait-ce que par le nombre des artistes. Et donc, nous y travaillons. Nous n'avons absolument pas renoncé à ce projet, mais ce n'est pas encore pour cette année, si vous l'avez compris, bien que l'année va quand même être scandé davantage que l'année précédente. Voilà.
C'est une année particulière.
Voilà.
Alors voilà, j'ai un petit peu éventé le secret. Vous allez fêter donc les 20 ans de la fondation de l'orchestre en 2019.
En réalité, si vous laissez un peu compliqué, il y a pas une date. Hein, voilà, ouais. C'est à cheval. Si on prend cette date-là, le dépôt exact des statuts de l'association Ensemble Baroque de Toulouse à la préfecture, puisque quand on crée une association, il faut déposer
bien
des
sûr.
Statuts à la préfecture, date du 11 décembre 98. Mais c'est, on va dire, à cheval. Nous considérons que cette saison 2018-2019 est la saison des 20 ans. Parce que, bon, voilà, ça, c'est une date un petit peu officielle, on va
dire. Oui, mais les premiers concerts, ça a dû être plutôt 99.
Voilà,
du coup.
C'était ouais. plutôt 99. Voilà, tout à
Alors,
fait.
Qu'est-ce que vous allez nous présenter, nous proposer pour fêter, comme il se doit, ses 20 ans. C'est pas rien quand même, 20 ans pour un orchestre.
Ah non, c'est pas rien pour un orchestre, surtout pour un orchestre qui s'est, comme le nôtre, constitué, on va dire, sans décision institutionnelle. C'est-à-dire que c'est vraiment la constitution de cet ensemble, comme d'ailleurs beaucoup des ensembles baroques, hein, puisque les ensembles baroques sont nés, pense qu'on peut dire la même chose, puisque Serge Ozy connaît très bien les Sacboutiers. Les Sacboutiers sont nés, eux aussi, d'une rencontre d'abord amicale et musicale, bien plus qu'institutionnelle. Ce qui est quand même différent du moment où des institutions décident, par exemple, de fonder l'Orchestre de Paris.
Hein. Oui, oui,
j'ai
oui,
connu
oui.
cette fondation. Voilà, la fondation de l'Orchestre de Paris, c'était une décision, on va dire, politique au sens noble du terme. Alors que les ensembles baroques se sont toujours insinués dans la vie musicale de manière un petit peu différente. Il leur a fallu faire leur place. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'on peut dire.
Hein,
voilà.
oui,
et donc, ce sont d'abord et avant tout des volontés de personnes. Et là, en l'occurrence, donc, la volonté d'un cercle de musiciens et de chanteurs, choristes autour de moi, qui ont eu envie de faire vivre cette musique baroque à Toulouse. Il n'y avait pas d'ensemble baroque, strictement baroque. Il y avait les Sacboutiers, évidemment, qui existaient, mais qui pratiquent, on va dire, une musique un petit peu antérieure encore
oui,
à la musique baroque.
Il s'agit de cuivre ancien.
Voilà. De cuivre ancien, c'est assez spécifique.
Ouais.
Voilà, tout ça pour dire que c'est donc effectivement quelque chose de fort d'exister depuis 20 ans. Parce que c'est pas tous les jours facile, pour tout dire.
Alors, vous allez faire quoi et quand ?
Voilà, alors, 20 égale 20 et 20. C'est-à-dire que nous allons faire le 20 janvier prochain la cantate numéro 20 de Jean-Sébastien Bach, dans le cadre des cantates sans filet, donc. Et que ce dimanche-là, 20 janvier, sera entouré, y compris le 19 janvier, la veille, le samedi 19, donc, d'un certain nombre de concerts, d'animations, de propositions, parfois décoiffantes, comme c'est le faire l'ensemble baroque de Toulouse.
C'est ce que j'allais dire, parce qu'en général, quand vous faites quelque chose, ça sort du cadre habituel.
Oui.
Dire que c'est original, souvent, c'est un peu un euphémisme. Donc, on ne peut pas en savoir plus. Ce sera des surprises.
Bien sûr.
Des surprises.
Ce sera basé essentiellement sur des surprises.
Des surprises.
Mais je peux vous dire, venez le samedi après-midi 19 à Ombre Blanche.
À Ombre Blanche.
À la librairie Ombre Blanche, voilà, qui est un partenaire de l'ensemble depuis des années.
Depuis
venez vous promener le samedi après-midi 19 à Ombre Blanche.
Donc j'espère que tout le monde aura bien noté cet anniversaire. 19-20 janvier, il y aura quelque chose à Ombre Blanche et puis le reste. Est-ce qu'on en saura plus avant ou on va tout découvrir sur place?
Ah non, on en saura plus avant. On va, comme le petit Poucet, semer quelques cailloux pour que chacun puisse retrouver son chemin.
Bon, très bien. Il est temps que nous parlions du programme des concerts de Noël parce que la prochaine actualité pour l'ensemble baroque de Toulouse, ce sont les concerts du 30 novembre à l'église Saint-Exupère de Toulouse et donc à l'église de Portet le 1er décembre. Comme l'an dernier, il y a 3 œuvres qui vont être jouées. Pas les mêmes, bien sûr. Lesquels vous avez programmé cette fois-ci? Alors, il y a un monument au programme.
Enfin, il y a...
Même deux, d'ailleurs.
Oui, il y a deux. Alors, il y a un monument et un extrait de monument.
Et quelques murs du monument.
Absolument. Alors, voilà, ça fait longtemps, je veux dire, sans une originalité particulière, d'ailleurs, que nous jouons, donc, avec l'ensemble baroque de Toulouse, le Stabat Mater de Pergolèse. Et notre public fidèle nous demande régulièrement et nous dit, mais pourquoi vous le jouez partout, sauf à Toulouse? Et donc, nous avons décidé de le jouer à Toulouse. Alors, une fois qu'on a inscrit le Stabat Mater de Pergolèse, ce chef-d'œuvre, on pourrait dire, absolu, non seulement de la musique baroque, mais de toute l'histoire de la musique, hein, vient un problème. C'est que si on dit programme de Noël, c'est pas exactement
oui,
une œuvre consacrée
à Noël. Oui, ça
paraît
un peu décalé.
Voilà,
je sais que vous êtes originaux, l'ensemble baroque, mais là, vous allez peut-être un peu loin.
Voilà,
parce
c'est
que
ça.
Pour fêter des concerts qui fêtent la nativité du Christ, une œuvre qui parle plutôt de sa mort.
Absolument.
Et ses souffrances.
Alors, c'est pour ça que nous avons fait voisiner avec
Il y a plus festif quand même.
Voilà, c'est ça. Mais c'était quand même une belle occasion, disons, de donner cette œuvre au public toulousain par l'ensemble baroque de Toulouse. J'y reviendrai parce que je crois que nous en avons une vision un petit peu particulière. Bon, je veux dire, c'est déplaisant quand un musicien dit ça parce que ça a l'air de porter un regard sur les autres interprètes disant oui. Que eux, ils se contentent de quelque chose d'un petit peu banal. C'est pas du tout le mot, mais il y a plusieurs visions possibles de cette œuvre et j'avoue qu'au fil de ce travail, de ce long travail effectué avec l'ensemble baroque, nous en avons une vision un petit peu particulière. Voilà.
Et précise,
absolument. C'est-à-dire, pour moi, c'est une œuvre dans laquelle, à l'image de Bach, mais évidemment avec son talent tout à fait particulier à lui, très différent de celui de Bach, Pergolèse illustre le texte d'une manière absolument extraordinaire. Il recourt à des moyens extraordinaires, et donc vous l'avez dit, comme le texte n'est pas particulièrement gai, la musique est parfois d'une très grande violence dans son écriture, si vous voulez, mais il faut aller débusquer cette violence, parce qu'il y a toujours chez Pergolèse une apparence de quelque chose d'assez consensuel, c'est très mélodique, c'est très beau, etc. etc. Mais, vous voyez, il y a quelques jours, nous faisions une magnifique opération avec l'ensemble baroque de Toulouse qui s'appelle Les Cordées de la Réussite, qui vise à présenter devant un public de lycéens un peu déshérité sur le plan culturel, présenter cette œuvre, donc ce Stabat Mater, donc une présentation d'une heure environ pour en montrer un certain nombre des ressorts musicaux, et puis ensuite nous l'avons interprété devant eux. Et ces jeunes qui n'avaient jamais entendu probablement de musique classique, et en tout cas je leur ai demandé jamais le Stabat Mater de Pergolèse, ont été absolument saisis par l'intensité expressive de l'œuvre, mais l'intensité de la traduction musicale, la proximité entre la traduction musicale et le texte dans cette œuvre. Voilà.
On va écouter évidemment le Stabat Mater de Pergolèse, bon, tout le monde connaît, je ne sais pas s'il y a des gens qui se lassent de l'entendre.
C'est une merveille absolue, surtout ce début, quoi, avec ces dissonances qui se résolvent petit à petit, puis il y en a une nouvelle qui arrive.
Et qui font partie justement, voilà, ça n'est pas simplement des dissonances, on va dire, décoratives, hein, mais qui font partie de cette expression de la douleur. Donc,
souffrance énorme, incroyable.
Oui, tout à fait, absolument.
Ah, oui,
tout à fait.
C'est magnifique.
C'est une œuvre d'une intensité expressive extraordinaire. Et juste un dernier mot quand même dessus, qui a une destinée très très particulière,
oui.
Il faut savoir que son compositeur ne l'a jamais entendu.
Oui.
Hein, voilà, il est décédé très jeune, à 26 ans, en l'ayant à peine terminé, remis entre les mains de son maître, et il est mort juste après. Donc c'est incroyable de se dire que cette œuvre, qui est devenue un des grands chefs-d'œuvre de la musique de tous les temps, n'a jamais été entendue par son compositeur.
Il est vrai, quand on parle Pergolèse, on pense tout de suite au Stabat Mater.
Hein.
Il a d'autres œuvres, évidemment.
Y compris d'opéra, donc.
Tout à fait.
Donc, Stabat Mater de Pergolèse, il s'agit d'une version du London Symphony Orchestra, dirigé par Claudio Abbado. Thank you. le Stabat Mater de Pergolèse, ici une interprétation du London Symphony Orchestra dirigée par Claudio Abbado. Alors, il y a une deuxième œuvre au programme, beaucoup plus de circonstances.
Voilà, donc évidemment, pas question de se contenter de cette partie-là, on va dire, de la vie du Christ, hein, dans cette période de Noël. Donc, nous avons associé à ce Stabat Mater quelques extraits de la première partie du Messie de Handel, la partie évidemment qui concerne cette fois-ci la nativité, hein, donc la première partie de cette œuvre un peu vaste, de cet oratorio vaste de Handel, est célèbre. Donc, trois chœurs et deux airs pour la même, on pourrait dire, la même formation vocale que le Stabat Mater, c'est-à-dire un air pour soprano et un air pour alto, puisque ce sont les deux voix qui seront réunies pour ce concert.
Alors, ça me donne l'occasion, parce qu'on n'en a pas parlé, elles seront déjà intervenues, évidemment, pour le Stabat Mater de Pergolèse, d'évoquer les deux chanteuses qui vont chanter avec l'ensemble baroque de Toulouse et le chœur baroque, bien entendu. On en connaît une très bien, il y a longtemps qu'elle chante avec vous, c'est Caroline Champy.
Voilà, tout à fait. Alors, inenvisageable pour nous de programmer ce Stabat Mater sans Caroline Champy. En tout cas, nous ne l'avons jamais donné sans elle. Nous l'avons donné à nombreuses reprises, y compris dans les mois écoulés. Et c'est toujours avec elle, Caroline, et cette incroyable, j'ai envie de dire, personnalité plus que chanteuse. Elle chante magnifiquement. Sa voix porte une sorte d'émotion intense, mi-contenue, mi-exprimé, qui tire les larmes. Mais il y a quelque chose encore en plus chez Caroline. Elle rentre en scène et elle porte déjà en elle, par son physique, par sa présence, toute l'expression de la musique. Par ses expressions, par l'intensité qu'elle met à chacune de ses interventions vocales. C'est absolument inouï. Et alors, moi, j'ai un souvenir extrêmement fort d'une collaboration avec elle. Il y a quelques années, nous avions donné l'Orfeo de Gluck. Donc, dans la première version, c'est-à-dire la version italienne, c'est une voix d'alto qui peut être évidemment chantée par un homme, hein, par un alto masculin, mais chanté par elle, on avait le sentiment vraiment d'une profondeur inouïe de cette douleur et de cet espoir, disons, ressenti par Orphée. Donc voilà. Et gloire à la prestigieuse école de chant toulousaine, puisque Caroline en est issue, mais également la jeune soprano qui s'appelle Clémence Garcia. Et pour ceux qui s'en souviennent, toutes les deux étaient déjà associées avec l'ensemble baroque de Toulouse à Toulouse il y a quelques temps, dans la Passion selon saint Matthieu à la Halle aux Grains.
Concert assez dans toutes les mémoires de ceux qui ont assisté.
Voilà. Ouais. Et Clémence était donc la magnifique soprano qui avait participé à cette passion. Alors elle, c'est vraiment une représentante typique de l'école de chant toulousaine. Elle a fait ses classes au Conservatoire de Toulouse, dans la classe d'Anne de Fondeville. Et donc, c'est vraiment, pour moi aussi, très important de mettre en valeur cette prestigieux réservoir de voix extraordinaire.
Allez, on va écouter un extrait du Messie de Handel, un des extraits que vous interpréterez. « For unto us a child is born », c'est une version du Monteverdi Chœur dirigée par John Eliot Gardiner. For When to Ask a Child is Born, version du Monteverdi Chœur dirigé par John Elliott Gardiner, le Messie de Handel, et la troisième œuvre au programme. Alors là, c'est vraiment l'œuvre de Noël par excellence. D'ailleurs, c'est dans le titre.
Voilà, tout à fait. Le concerto pour la nuit de Noël de Corelli. Voilà, c'est évidemment la couleur générale de ce concert. Eh bien, une couleur de Noël avec cette incursion avec le Stabat Mater dans des périodes plus sombres. Mais voilà, il fallait quand même que la couleur soit festive. Alors là, je crois qu'avec cette œuvre-là, on est en plein. Corelli, qui est un musicien, à mon avis, d'ailleurs. Enfin, pas cette œuvre-là, elle est très connue, mais qui est un musicien
sous-estimé.
Voilà. C'est un compositeur absolument extraordinaire. Vraiment, qui associe donc virtuosité, puisque c'était lui-même probablement le plus grand violoniste
de son époque.
Ouais. Voilà, et qui, comme tous les violonistes italiens, enfin comme beaucoup d'entre eux, bon, le plus connu d'entre eux étant plus tardivement Paganini, ont composé souvent des œuvres pour mettre en valeur leur propre virtuosité. Mais il y en a plein d'autres, Tartini, etc. Mais il y a derrière cette virtuosité et ce brio apparent une qualité d'écriture exceptionnelle chez Corelli. Et je trouve que voilà, c'est un compositeur qu'on ne met pas assez à l'honneur de nos jours.
Et bien sûr, c'est l'œuvre qui termine le concert parce que bon, il fallait finir sur cette musique qui est aussi peut-être la plus festive de toutes.
Oui, voilà, c'est ça, absolument. Bah, le Messie, on l'a entendu, c'est quand même cette partie du Messie.
Cette partie-là,
il n'y a pas d'ombre. Hein, voilà.
On va en écouter un extrait de ce concerto pour la nuit de Noël de Corelli. Voilà, le concerto pour la nuit de Noël de Corelli. Alors, je disais que le début, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus festif, mais on voit quand même après, voilà. Ça s'emballe un peu.
Ah ben ça, c'est l'art des Italiens. Et c'est-à-dire que si c'était tout le temps festif, on ne le remarquerait plus. Ben mais voilà, donc, c'est cette alternance de mouvements lents, souvent très expressifs, et puis après, cette explosion de virtuosité et de joie musicale.
Le temps a passé vite, si vite qu'il va falloir terminer cette émission. Merci à mes camarades chroniqueurs, Anne-Marie Chouchan et Serge Chosy, d'avoir été une fois de plus fidèles au rendez-vous pour animer ce numéro à mes côtés. Et bien surtout mes remerciements à vous, Michel Brun, d'en avoir été l'invité. L'ensemble baroque de Toulouse donne ses deux concerts de Noël à l'église Saint-Exupère de Toulouse, vendredi 30 novembre à 20h, et à l'église de Portet-sur-Garonne, samedi 1er décembre à 17h. Au programme, le Stabat Mater de Pergolèse, le concerto pour la nuit de Noël de Corelli et des extraits du Messie de Handel. Vous pouvez réserver vos places en passant par le site internet de l'ensemble baroque, www.baroquetoulouse.com, ou en vous connectant directement également à l'adresse www.passetonbac.festic.net. Si vous voulez vous informer et réserver pour le concert de l'Orchestre Philharmonique de Radio France et des Sœurs Bougnatichvili ce samedi 24 novembre à 20h à la Halle au Grain dans le cadre de la saison des grands interprètes, il faut vous connecter au site www.grandsinterprètes.com. D'autre part, je rappelle que les représentations de La Ville Morte, l'opéra d'Erich Korngold, se poursuivent au théâtre du Capitole jusqu'au mardi 4 décembre. Il en reste encore 4 et vous pouvez vous renseigner et faire vos réservations sur le site www.theatreducapitole.com. Et enfin, je tenais à signaler le spectacle musical et chorégraphique Hombre, qui célèbre les 40 ans de l'actuelle constitution espagnole avec l'orchestre du Royaume d'Aragon dirigé par Ricardo Casero. C'est à la Halle au Grain de Toulouse dimanche 25 novembre à 15h et lundi 26 à 20h et c'est organisé par l'association La Dame d'Aragon. Réservation à l'adresse www.la-dame-d-aragon.festic.net. Merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la régie technique de cette émission qui est disponible et réécoutable comme d'habitude en podcast dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité. Allez à l'opéra, allez au concert et passez tous une excellente semaine musicale.